Les Français ne se lavent pas, ou les Français sont râleurs. On a tous entendu plein de stéréotypes sur les Français, mais alors lesquels sont réels et lesquels sont faux ? Aujourd'hui, dans l'épisode 58 du podcast M Polyglotte, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des stéréotypes sur les Français, et je vais un petit peu commenter tout ça. Il y a des explications de vocabulaire en fin d'épisode, la petite nouveauté, alors restez jusqu'au bout. Bonne écoute. Bon alors évidemment, il y a toujours des stéréotypes sur toutes les populations du monde. Et les Français ne font pas exception à la règle. En fait, il y a énormément de stéréotypes sur les Français. Et je m'en suis rendu compte notamment quand je suis allé vivre aux États-Unis. C'est là-bas vraiment que j'ai appris qu'il y avait énormément de clichés sur les Français, et que c'était assez facile de nous mettre des étiquettes. Alors j'en ai entendu beaucoup, hein, les Français ne se lavent pas, les Français sont râleurs, et franchement il y en a, c'est à juste titre. D'ailleurs, je pense qu'en termes général, s'il y a des stéréotypes ou des clichés sur une population, on ne peut pas évidemment dire que c'est à 100% la réalité, mais je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans. C'est-à-dire que on a quand même une inspiration basée sur un fait qui est plus ou moins général. Donc bien évidemment, on ne peut pas faire des généralités, mais je pense qu'il y a toujours un petit peu un côté, une part de vrai, on va dire, dans ces stéréotypes. Et donc aujourd'hui, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une liste des stéréotypes sur les Français. Je vais les lire et je vais essayer de les commenter du mieux que je peux. Et donc on commence tout de suite avec la première proposition de ChatGPT qui est « Les Français apprécient souvent un bon verre de vin, mais cela ne signifie pas qu'ils sont tous des buveurs invétérés. La consommation de vin est profondément enracinée dans la culture française et est souvent associée à la convivialité et au partage. » Eh bien franchement, je pense que cette affirmation est plutôt vraie. Et je pense qu'elle est bien expliquée, surtout au moment où il dit que c'est surtout quelque chose qui est en rapport avec la convivialité et le partage. Je pense que notamment maintenant, ça a évolué hein, tout ça, surtout que grâce à la médecine et la prévention, on sait que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, et donc il y a quand même moins de Français qui boivent beaucoup de vin. Je ne saurais pas dire les statistiques, mais je sais que les Français boivent en général moins d'alcool, et moins de vin, bien sûr. Cela dit, il y a toujours ce côté culturel dont on est fier en France. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on parle de vin, on est très fier d'être français et on va toujours dire que bah, le meilleur vin du monde est un vin français. Alors, c'est vrai ou pas, honnêtement, je n'ai pas assez de culture du vin, on va dire, pour affirmer ça. Mais en général, c'est vrai que je suis assez fier du vin de France et par exemple, pour quelqu'un comme moi, qui vit en Espagne, et j'ai aussi vécu aux États-Unis, bah, je peux vous dire que le vin est moins bon, selon moi en tout cas, c'est mes propres opinions, on va dire, là-dessus, mais je trouve que le vin français en général est de très bonne qualité, et en fait le truc c'est que par exemple en Espagne, il y a du très bon vin, mais en général le vin espagnol est plus fort en alcool, et il est moins fruité, on va dire. Alors que le vin français, quand on le boit, bah, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'alcool dedans, en fait c'est pas un vin qui est extrêmement fort. Alors évidemment il y en a pour tous les goûts, mais en général c'est un peu comme ça que je le perçois. Et c'est pour ça d'ailleurs que par exemple le vin aux États-Unis, bah, j'aimais beaucoup le vin de Californie, puisque la plupart du temps en fait ils prennent des vignes de France, et ils ont un climat très propice là-bas pour faire du vin, et donc bah, c'est un vin de très bonne qualité aussi. Donc voilà, je pense qu'on peut dire effectivement que c'est un stéréotype validé, les Français apprécient un bon verre de vin, mais ils ne sont pas non plus alcooliques. Alors deuxième proposition, bien que certains Français puissent paraître impolis, cela peut simplement être dû à des différences culturelles. En réalité, les Français sont souvent très chaleureux et accueillants. Et bien là, je remercie ChatGPT, parce que honnêtement, je pense que dans la culture maintenant, on n'a qu'à voir par exemple la série Emily in Paris, je pense qu'on fait toujours un petit peu un lien avec les Français sont mal polis, froids et le contraire de chaleureux finalement. Alors qu'en fait, je pense que c'est pas vrai, je pense que les Français sont très directs, je pense que les Français sont assez directs et ils disent ce qu'ils pensent. C'est surtout ça. Et je pense que dans certaines cultures, c'est mal vu. Dans certaines cultures, bah, il ne faut pas dire un peu ce qu'on pense, il faut plutôt garder ça pour soi. En France, je pense que c'est complètement normal de dire les choses telles qu'elles sont et d'être assez direct avec les personnes. Et je pense que les Français n'aiment pas trop faire semblant, mentir, se forcer un petit peu, surtout dans ce qui est le relationnel, le côté social. Donc si, par exemple, quelqu'un en France ne vous apprécie pas, vous allez tout de suite le savoir. C'est pas comme aux États-Unis, par exemple, où je dirais qu'aux États-Unis, c'est un peu plus, on va dire, le cliché de on va être super sympathique tout le temps et on va essayer d'être copain avec tout le monde. Je pense que c'est très artificiel, entre guillemets. Alors, moi, c'est un côté que j'aime bien personnellement, faut pas le prendre mal. Moi, c'est quelque chose que j'appréciais aux États-Unis. J'aimais bien le fait que tout le monde est très chaleureux, tout le monde est très ami avec vous et c'est très facile, en fait, le côté relationnel là-bas. Mais en même temps, je pense qu'en France, bah, au moins, c'est réel. C'est-à-dire que, bah voilà, s'il y a quelqu'un qui vous apprécie pas, vous allez tout de suite le savoir. En plus, je pense que c'est pas propre à la France, mais en général, quand vous allez visiter un pays, eh bien, vous allez avoir des gens un peu plus froids et un peu plus énervés, etc., dans les grandes villes. Donc, c'est sûr que si vous allez à Paris, bah oui, vous allez tomber sur des gens qui sont un peu froids, qui sont pas très sympathiques, etc., et encore, pas tout le monde, hein. Mais ça va être plus facile, on va dire, de trouver ce type de personnes dans une grande ville comme Paris. Mais si vous allez bah, dans des villes un peu plus petites ou même en campagne, etc., bah, vous verrez que les gens, en fait, sont très accueillants et très gentils, en fait. Moi, je pense qu'en France, on est plutôt sympathique, en vrai. Donc, vous l'aurez compris, selon moi, cette affirmation n'est pas vraie. Donc, je ne valide pas ce deuxième stéréotype, ChatGPT. Alors, le troisième point, il m'a fait sourire. Je vous le lis. L'accent français est souvent considéré comme l'un des plus sexy au monde. Ce qui est peut-être dû à la façon dont la langue est parlée avec passion et émotion. J'adore comment ChatGPT écrit ça d'une manière un peu poétique. Bah écoutez, j'en sais rien. Ça, je pense qu'il faut le demander un petit peu bah, aux natifs. J'imagine que là, on parle de la langue anglophone. Parce qu'on dit l'accent français, donc je pense que c'est quand les Français parlent en anglais. Moi, personnellement, je dois avouer que mon expérience aux États-Unis a été très bonne, et notamment à cause de mon accent français. Je pense que les gens, c'est quelque chose qu'ils aiment bien là-bas, aux États-Unis. Je ne sais pas si en Angleterre, ils aiment bien l'accent français aussi, mais en tout cas, j'avais cru comprendre, en gros, que les Américains, en général, ils ont deux accents qu'ils adorent. Le premier, c'est l'accent britannique, et le deuxième, c'est l'accent français. Alors, je sais, je dis britannique, c'est bien plus complexe que ça, parce qu'il y a plein d'accents britanniques, mais vous m'avez compris. Donc moi, personnellement, je sais que ça a été un gros avantage pour moi d'avoir un accent français quand je parle en anglais. Et ça l'est encore même aujourd'hui. Je pense qu'on associe un peu la France à des choses positives en général et moins négatives, même s'il y a toute une série de stéréotypes négatifs. Mais je pense que voilà, on associe un petit peu le côté langue française à la littérature, la culture, l'art, etc. Et c'est en général plutôt apprécié. Donc, je valide ce troisième point. L'accent français est souvent considéré comme l'un des plus sexy au monde. Oui, oui, oui. Alors le quatrième point, je vais pas pouvoir en parler trop parce que c'est pas du tout mon domaine, mais en gros ça dit « La mode est une forme d'art en France, avec des designers tels que Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, qui ont contribué à la renommée de la mode française dans le monde entier. » Moi personnellement, de l'extérieur, parce que je suis pas un grand connaisseur de mode, je pense effectivement qu'il y a énormément de grandes marques qui sont françaises. Moi personnellement, quand je pense à la mode en général, bah, je pense qu'il y a la France, l'Italie, et après il y a des trucs un petit peu chelous, hein. Il y a la mode britannique que moi personnellement je ne comprends pas, je trouve ça un petit peu bizarre, et puis maintenant il y a un petit peu voilà, des nouveautés comme la mode un peu japonaise, coréenne, etc. Personnellement, je pense qu'on peut dire effectivement que la France est assez pionnière dans le monde de la mode, et que c'est la classe quand même. C'est vrai que par exemple, si vous allez à Paris, et là j'utilise Paris comme exemple parce que je pense que c'est vraiment le cœur un peu du pays et de la mode, bah c'est vrai que les gens s'habillent plutôt bien en vrai. Et un autre endroit, moi, que j'aime beaucoup pour voir un petit peu l'élégance des gens, c'est Madrid. Si vous allez en Espagne, allez à Madrid et vous verrez que les gens sont toujours assez élégants. C'est quelque chose que j'aime bien personnellement. Cinquième point, on commence à rentrer dans le domaine de l'alimentation. Ça dit, le régime alimentaire français est souvent considéré comme très sain, avec une importance accordée aux aliments frais et de qualité. Cela peut expliquer pourquoi les Français ont tendance à être plutôt minces. Alors, c'est une petite précision ici que j'aime bien. Honnêtement, je suis d'accord avec la première partie de cette affirmation. C'est vrai qu'en France, on accorde une grande importance à la qualité des produits frais, surtout bah, les légumes, les fruits, etc., même ce qui est... Pour les carnassiers, bah, la viande, la qualité du poisson, du fromage, tout ça, on aime bien élaborer les choses sur le territoire. C'est vraiment un savoir-faire qu'il y a en fait en France pour avoir une bonne qualité d'alimentation. Maintenant, la petite affirmation derrière qui dit « cela peut expliquer pourquoi les Français ont tendance à être plutôt minces », ça c'est un truc qui est assez fascinant je trouve. effectivement, ils font attention à ce qu'ils mangent et surtout, c'est de la bonne qualité. Mais il y a quand même un petit peu ce paradoxe. On parle d'un paradoxe français parce que, par exemple, quand on regarde des études un petit peu scientifiques là-dessus, bah, en fait, il y a beaucoup d'études qui ne sont pas cohérentes, entre guillemets, avec le fait que les Français sont minces parce que bah, les Français mangent quand même très gras. Ils mangent beaucoup de beurre, ils mangent beaucoup de fromage et du fromage bien crémeux. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Je pense que ce n'est pas que dû à ça, mais en tout cas, la qualité de la nourriture en France est excellente, ça c'est sûr. Affirmation numéro 6. Les grèves sont un moyen pour les Français de faire entendre leur voix et de lutter pour leurs droits. Bien que cela puisse parfois causer des perturbations, cela montre l'engagement des Français envers leurs convictions. Écoutez ça, franchement, ChatGPT ici fait un très bon travail pour rester un peu neutre, pour ne pas un petit peu provoquer les gens. Mais c'est vrai que bah, les grèves sont très présentes en France. Hein. Ça, je ne vous cache pas que c'est vrai. Tous les 4 matins, on entend qu'il y a quelques personnes en grève par-ci par-là pour telle ou telle chose. En vrai, c'est vrai que la grève est un droit en France. On a le droit à montrer son mécontentement. Et donc, je pense que c'est un moyen quand même de... comment dire, d'affirmer nos positions et de se battre pour nos convictions. Ça, c'est vrai. Maintenant, les grèves, c'est aussi considéré comme quelque chose de négatif dans le monde entier, on va dire. Il y a beaucoup de cultures et de pays qui ne comprennent pas ça. Faut savoir qu'en France, c'est quelque chose qui est très ancré dans la manière de vivre, en fait. Hein. Le moindre truc, bah, on va réclamer. Et en fait, c'est un petit peu un moyen aussi pour les Français, si vous voulez, de se protéger de nos politiciens et de notre gouvernement, un petit peu pour dire, bah voilà, attention, on est gentil, on fait des efforts, mais faut pas non plus nous prendre pour des idiots et on revendique nos valeurs et nos droits, un petit peu. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même respecter, bien que moi, personnellement, vous connaissez mon opinion personnelle là-dessus, moi, je n'ai jamais fait grève de ma vie et c'est pas quelque chose qui me plaît de faire grève. Moi, je suis quelqu'un qui est très travailleur et j'accepte assez facilement, on va dire, ce que le gouvernement fait en France parce que je suis assez satisfait finalement de notre gouvernement actuel, mais en général, voilà, les politiciens français sont plutôt bons, je trouve. Alors évidemment, je peux pas faire des généralités, hein, y a des politiciens français que je déteste, mais je pense que le système français en général est plutôt bon et je pense qu'on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on a quand même beaucoup d'avantages en France et donc la qualité de vie en France est bonne. Point numéro 7, les Français sont réputés pour être paresseux, mais cela peut être dû à un style de vie différent de celui d'autres cultures. En réalité, les Français travaillent en moyenne plus de 35 heures par semaine. Alors c'est intéressant ici. C'est vrai que les Français ont cette réputation d'être feignants ou d'être paresseux. Ce sont des synonymes. Mais en fait, je pense que, vous savez, il y a une mentalité un peu en France qui est on ne vit pas pour travailler, mais on travaille pour vivre. Donc c'est un petit peu cette mentalité qu'on a en France. Pour beaucoup de personnes en tout cas. Encore une fois, on ne peut pas faire des généralités globales, mais il y a beaucoup de Français qui pensent comme ça. Je travaille pour vivre, mais je ne vis pas pour le travail. Et donc, vous savez qu'en France, on est le pays qui travaille le moins d'heures par semaine pour les employés, en tout cas, puisque c'est à 35 heures par semaine. En général, en Europe, on travaille à 40 heures par semaine ou plus. Bon, en France, c'est 35 heures, mais ce qu'il faut voir, c'est que la productivité globale du pays est bonne, comparée à d'autres pays, comme par exemple l'Espagne, où la productivité est moins bonne. En fait, vous savez, je pense que c'est mieux. Personnellement, encore une fois, je suis un grand fervent du motto qualité et non pas quantité. Et je pense qu'en fait, si on dit aux gens, bah voilà, vous allez travailler peu de temps, mais par contre, il faut travailler bien et vite, bah ils vont le faire. Et ils vont apprécier, en fait, avoir du temps libre derrière. En Espagne, par exemple, bon, beaucoup de personnes perdent du temps au travail parce que bah, on est en mode, ok, on y va tranquille, on a toute la journée, on a le temps de prendre une petite pause café, blablabla, blablabla. Donc, je pense que c'est pas forcément la... on va dire que c'est pas un facteur qui est suffisant pour analyser la productivité, finalement. Donc les Français, je pense qu'ils sont pas paresseux. Je pense qu'encore une fois, c'est un style de vie. Et c'est bien aussi montrer notre droit. C'est-à-dire que voilà, si on est là pour travailler 35 heures, bah, on va pas travailler 35 heures et 30 minutes. On va travailler 35 heures. Parce que c'est comme ça que c'est stipulé dans le contrat. Donc on est très à cheval, si vous voulez, sur les contrats, les termes et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est un bon point et j'aime bien la précision de dire qu'en réalité, les Français travaillent en moyenne plus de 35 heures par semaine. Donc ça veut dire que Alors, encore une fois, j'ai pas les études, hein, j'ai pas les sources parce que c'est ChatGPT qui me dit ça. Mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes entrepreneurs, etc., ou dans le domaine privé, eh bien, peut-être qu'ils vont travailler plus que 35 heures. Et donc, si on ramène la globale nationale, bah, peut-être que les Français, en moyenne, effectivement, travaillent plus de 35 heures. C'est quelque chose qui serait intéressant, peut-être, de voir. Alors, point suivant, on retourne sur la gastronomie. Et ça dit que les Français sont réputés pour leur amour de la gastronomie. Mais cela ne signifie pas que tous les Français sont des chefs étoilés. En réalité, la nourriture française est souvent simple et basée sur des ingrédients de qualité. Donc ça, c'est intéressant. Je dis toujours que la gastronomie française est très réputée mondialement, ça c'est sûr. C'est un exemple à suivre. Tous les grands chefs veulent aller en France pour avoir cette expérience un petit peu d'apprentissage dans la gastronomie française. Je pense qu'effectivement, c'est pris très au sérieux, le côté gastronomique. Et je pense qu'en général, la nourriture typique française est plutôt élaborée, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont relativement complexes quand même. Par exemple, il faut juste voir un petit peu bah, les sauces. C'est des sauces qui sont très élaborées, ça prend du temps, c'est complexe, etc. Mais c'est vrai que du coup, le fait que tous ces plats, on va dire, typiques soient aussi complexes, eh bien, ça fait que les gens à la maison cuisinent des choses qui sont plus simples. Donc en fait, comme on a des ingrédients de bonne qualité, c'est facile de rendre un plat simple très bon. Je veux dire, il n'y a pas besoin de 10 000 ingrédients pour faire quelque chose de très bon si les ingrédients de base sont de très bonne qualité. Et c'est un petit peu ça, si vous voulez. Je pense qu'il y a un peu ce contraste avec, par exemple, la gastronomie italienne qui va être une cuisine extrêmement bonne, mais qui va être aussi assez accessible à tout le monde. Tout le monde est capable de cuisiner à la maison. C'est des recettes qui sont assez simples, efficaces et très bonnes, avec des bons produits. Alors que le côté gastronomie français, c'est un petit peu plus, on va dire, élaboré, plus technique, et donc c'est pas non plus accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes en France qui ne savent pas vraiment cuisiner. Ils cuisinent un petit peu ce qu'ils peuvent, mais ils vont pas faire des plats vraiment très poussés, quoi. Alors, il reste deux choses sur la liste, et on passe au point suivant, qui dit que les Français sont polis. Les Français sont souvent considérés comme très polis et formels dans leur interaction sociale. Et ça, c'est vrai. Ça, complètement, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, vous savez, ça fait partie de la culture linguistique, on va dire. Les formalités, c'est vrai qu'en France, bon, bah, on utilise beaucoup le vouvoiement, donc on va dire vous à une personne au lieu de dire tu, quand c'est une personne qu'on ne connaît pas ou quand on est peut-être dans un contexte, on va dire, plus formel, pour demander son chemin dans la rue, etc., on va dire vous. On va aussi beaucoup insister sur les salutations, dire bonjour quand on rentre, par exemple, à la boulangerie, chez le médecin, on va saluer un petit peu les gens qui sont déjà présents dans la salle. On va dire bonjour à tout le monde. Puis quand on va partir, on va dire au revoir. On va également rajouter un petit bonne journée, ce genre de choses. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose de très agréable. Alors, c'est peut-être dû au fait que j'ai été habitué à ça, mais je vois la différence avec le côté espagnol qui est très colloquial, très familier. Et donc, les gens ici n'utilisent pratiquement pas le « usted », par exemple, qui est l'équivalent du « vouvoiement » en français. Et c'est quelque chose qui m'a un petit peu... ça m'a un peu surpris au début. Vous savez, moi, au début, j'utilisais des constructions en espagnol très élaborées et les gens me regardaient un peu bizarrement en mode, bah, je veux dire, parle normal, quoi, tu vois. Pourquoi t'es aussi formel ? Et c'est quelque chose que... Bah, qui me manque un petit peu, moi j'aime bien. J'avoue que quand je prends l'avion et que j'arrive en France et que je commence à parler aux gens, à demander mon chemin ou quoi, bah, j'avoue que j'aime ce côté très formel, je trouve que c'est très poli, très agréable. Après, bon, je comprends que pour d'autres cultures, c'est un peu bizarre et chacun fait un petit peu à sa manière, quoi. Et on arrive à la fin de cette liste, les amis, le dernier stéréotype étant « les Français sont anti-américains ». Ce stéréotype suggère que les Français ont une aversion pour les Américains et leur culture. Bah non, les gens. Là, je suis pas d'accord, ChatGPT. En fait, ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Je pense qu'effectivement, c'est un peu générationnel. Il y a eu ce côté, effectivement, anti-américain, un petit peu par, je dirais, par jalousie, peut-être. Mais aussi par le fait que la culture américaine est tellement ancrée dans le monde global, maintenant, que du coup, il y a un petit peu cette menace, on va dire. Et ça, c'est pas que en France. Je pense que tous les pays sont touchés par ça. La peur, on va dire, de l'envahissement finalement de la culture américaine. Moi, c'est quelque chose personnellement que j'aime beaucoup. Vous savez que je suis un grand fan des États-Unis en général. Je pense que maintenant, les gens, les nouvelles générations, on va dire, sont très American friendly, je pense. Hein. Ils aiment beaucoup les Américains. C'est des gens qu'ils admirent même. Et je pense que si vous êtes Américain et que vous allez en France, notamment à Paris, bah, je pense que vous allez être bien reçu en vrai. Les gens sont très curieux, sont très fans. D'ailleurs, les États-Unis, ça devient de plus en plus une destination touristique pour les Français. Hein. Les Français sont très curieux de voir un petit peu bah, tout ce qu'ils voient dans les films, les séries depuis plusieurs années. Et je pense qu'il y a un amour maintenant pour les États-Unis. Évidemment, par contre, il y a un grand contraste au niveau culturel et gouvernemental, on va dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, par exemple, qui vont prendre les Américains un petit peu pour des gens incultes sur certaines choses, notamment, par exemple, le port d'armes, etc. Il y a beaucoup de Français qui sont contre ça et qui vont se mettre un petit peu au-dessus des autres parce qu'ils pensent faire tout mieux que tout le monde. Mais ça, c'est aussi un petit peu ancré dans la culture française. C'est vrai que beaucoup de Français sont un peu fiers d'être Français et ils peuvent paraître un petit peu froids, un petit peu prétentieux. Vous êtes toujours là ? Bon, alors ça veut dire que vous êtes intéressé par quelques petites explications de vocabulaire. Donc j'ai décidé de commencer à faire ce petit truc. C'est qu'à la fin de chaque épisode, je vais vous donner quelques explications de certaines expressions ou mots de vocabulaire que j'ai utilisés pendant l'épisode. Je préfère le faire en fin d'épisode. Alors prenez l'habitude peut-être pour les prochains d'aller regarder peut-être les explications de vocabulaire avant d'écouter l'épisode. Ou alors, écoutez l'épisode en entier et regardez les explications à la fin. Faites un petit peu comme vous préférez. Honnêtement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode là-dessus, d'accord ? Alors, première explication. J'ai utilisé plusieurs fois le mot cliché et stéréotype. Il faut savoir que ce sont des synonymes. Il n'y a aucune différence entre un cliché ou un stéréotype. Je dirais peut-être que le terme stéréotype est un peu plus formel et technique et le terme cliché est un peu plus commun, peut-être. Ensuite, j'ai utilisé l'expression « mettre des étiquettes ». Quand vous mettez une étiquette sur quelqu'un ou quelque chose, ça veut dire que vous mettez cette personne ou cette chose dans une catégorie, vous jugez un petit peu cette personne ou cette chose. C'est-à-dire que si je dis par exemple « les Français sont froids », eh bien c'est mettre une étiquette sur les Français et considérer que tous les Français sont froids. C'est les mettre un petit peu dans une case. Ensuite, il y a l'expression « il y en a pour tous les goûts ». Il y en a pour tous les goûts. Quand on dit ça, en fait, c'est pour dire qu'il y a une variété de choses et qu'il y a un petit peu des offres qui vont faire plaisir à plusieurs types de personnes. C'est-à-dire que si je dis « ok, dans ce gym, dans cette salle de sport, eh bien, on peut faire de la natation, de la musculation, de la danse, des arts martiaux, etc. » En gros, il y en a pour tous les goûts. Ça veut dire que peu importe votre préférence, eh bien, vous allez pouvoir faire quelque chose qui va vous plaire. Il y en a pour tous les goûts. Ensuite, il y a l'expression « garder quelque chose pour soi ». Quand on dit « vaut mieux garder ça pour soi », ça veut dire qu'on sait que c'est peut-être quelque chose qu'on va dire et qui va être mal interprété ou qui va peut-être blesser ou offenser quelqu'un. Et donc, c'est mieux de ne pas le dire, de garder ça dans ses pensées, de le garder pour soi. Alors, je précise que si vous voulez plus d'explications de vocabulaire, eh bien, vous pouvez. Il suffit de vous inscrire au Club I'm Polyglot. Quand vous inscrivez au Club sur mon site internet, eh bien, vous avez accès au script des épisodes, mais également à une petite explication supplémentaire sur d'autres expressions. Donc, en fait, vous avez le script et vous avez également à l'écrit d'autres explications de vocabulaire. Voilà, n'oubliez pas non plus que vous pouvez vous inscrire pour avoir des épisodes supplémentaires, des épisodes exclusifs. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 59 du podcast Un Polyglotte. Salut à tous !